Chapitre 15. Pendant les 4 jours suivants, toute notre équipe de sécurité nationale a été entièrement accaparée par le drame qui se déroulait en mer au large de la Somalie. L'équipage du porte-conteneur, Maersk Alabama, avait eu la présence d'esprit de bloquer les moteurs du bateau avant que les pirates ne montent à l'abordage, et la plupart de ses membres s'étaient repliés dans une pièce sécurisée. Pendant ce temps, le capitaine, Richard Phillips, un homme courageux et sensé du Vermont, était resté sur le pont. N'ayant plus moyen de manœuvrer le navire d'environ 155 mètres, et leur frêle skiff n'étant plus en mesure de reprendre la mer, les Somaliens ont décidé de s'enfuir sur un canot de sauvetage, emmenant Phillips avec eux, réclamant 2 millions de dollars en échange de sa libération. Même si l'un des preneurs d'otages s'est rendu, les négociations pour que le capitaine soit relâché n'ont pas abouti. La tension n'a fait que croître quand Phillips a tenté de s'échapper en sautant par-dessus bord, mais que ses ravisseurs l'ont repêché peu après. La situation devenait plus critique d'heure en heure, et j'ai donné l'autorisation de faire feu sur les pirates si à un moment Phillips semblait encourir un danger imminent. Enfin, le 5e jour, l'information nous est parvenue. Alors que 2 des Somaliens étaient hors de la cabine, un 3e a été aperçu par un hublot tenant le capitaine Phillips en joue. Les tireurs d'élite du Navy SEAL ont tiré 3 fois. Les pirates ont été tués, Phillips était en vie. La nouvelle a suscité des applaudissements victorieux partout à la Maison-Blanche. Le Washington Post a proclamé en une que c'était une première victoire militaire pour Obama. Mais j'avais beau être soulagé de voir le capitaine Phillips retrouver sa famille et fier de la façon dont nos gars de la marine avaient géré la situation, l'épisode qui venait de se dérouler ne me donnait pas non plus envie de me frapper la poitrine en signe de victoire. D'une part, il fallait garder à l'esprit que la réussite de l'opération, qui aurait pu tourner au désastre, s'était jouée à quelques centimètres, 3 balles tirées dans l'obscurité atteignant leur cible, qui aurait toutefois pu être légèrement déviée par une houle soudaine. D'autre part, je me rendais compte aussi que dans le monde entier, dans des endroits comme le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Irak, des vies de millions de jeunes hommes comme ces 3 Somaliens morts, certains n'étaient que des garçons puisque le pirate le plus âgé aurait eu 19 ans, avaient été entravés et meurtris par le désespoir, l'ignorance, des rêves de gloire religieuse, la violence de leur environnement ou les combines d'hommes plus vieux. Ils étaient dangereux, ces jeunes hommes, d'une cruauté souvent délibérée et désinvolte. Il n'empêche, je voulais d'une façon ou d'une autre les sauver, globalement tout du moins. Les envoyer à l'école, qu'ils apprennent un métier et se libèrent de la haine qui emplissait leur tête. Et pourtant, le monde dont ils faisaient partie et la machine que je commandais étaient tels que, le plus souvent, j'étais au contraire dans la position de les faire tuer. Je savais que mon métier impliquait que je donne l'ordre de tuer des gens, même si les choses étaient rarement formulées ainsi. La lutte contre les terroristes, dans leur zone d'embut et pas dans la nôtre, comme Gates aimait le dire, avait servi à justifier les guerres menées en Afghanistan et en Irak. Mais tandis qu'Al-Qaïda s'éparpillait et entrait dans la clandestinité, se métastasant en un réseau complexe d'affiliés, d'agents, de cellules dormantes et de sympathisants connectés par Internet et par téléphone non traçable, nos agences de sécurité nationale avaient dû concevoir de nouvelles formes de guerre, non traditionnelles, plus ciblées, impliquant notamment de piloter un arsenal de drones létaux pour neutraliser les agents d'Al-Qaïda sur le territoire pakistanais. L'Agence de sécurité nationale, la NSA, qui était déjà l'organisation de collecte de données électroniques la plus sophistiquée au monde, utilisait de nouveaux superordinateurs et des programmes de déchiffrement valant des milliards de dollars pour passer au peigne fin le cyberespace à la recherche de communications terroristes et de menaces potentielles. Le GSOC, avec l'appui des équipes du Navy SEAL et des forces spéciales de l'armée, menait des raids nocturnes et pourchassait les individus soupçonnés de terrorisme, le plus souvent à l'intérieur des zones de guerre, mais parfois à l'extérieur, d'Afghanistan et d'Irak. En outre, la CIA avait développé de nouveaux modèles d'analyse et de centralisation du renseignement. La Maison-Blanche aussi s'était réorganisée pour faire face à la menace terroriste. Chaque mois, je présidais une réunion à la salle de crise, rassemblant toutes les agences du renseignement, afin de passer en revue les développements récents et d'assurer la coordination. L'administration Bush avait mis au point un classement des cibles terroristes, une sorte de top 20 avec photos, pseudonymes et statistiques essentielles, qui n'étaient pas sans rappeler celles qu'on trouvait sur les cartes de baseball. Généralement, chaque fois que quelqu'un de la liste était tué, une nouvelle cible était ajoutée, ce qui a amené Ram à faire remarquer un jour que le service des ressources humaines d'Al-Qaïda devait avoir du mal à pourvoir cette 21e place. De fait, Mon directeur de cabinet hyperactif, qui avait passé suffisamment de temps à Washington pour savoir que ce nouveau président démocrate ne pouvait pas se permettre de paraître manquer de fermeté avec le terrorisme, était obsédé par la liste, pressant ceux qui étaient responsables de nos opérations de ciblage de se renseigner pour savoir ce qui prenait tant de temps pour localiser les numéros 10 ou 14. Je ne tirais nulle joie de tout cela. Cela ne me conférait nul sentiment de puissance. J'étais entré en politique pour aider les enfants à bénéficier d'une meilleure éducation, pour aider les familles à avoir accès aux soins médicaux, pour aider les pays pauvres à produire plus de nourriture. C'est à l'aune de ces critères-là que je voulais mesurer mon pouvoir. Mais ce travail était nécessaire, et il était de ma responsabilité de m'assurer que nos opérations étaient les plus efficaces possibles. En outre, contrairement à certains à gauche, je n'avais jamais condamné en bloc l'approche antiterroriste de l'administration Bush. J'avais eu accès à suffisamment d'informations fournies par le renseignement pour savoir qu'Al-Qaïda et ses affiliés étaient sans cesse occupés à préparer des crimes horribles contre des innocents. Ses membres refusaient de négocier et ne respectaient pas les règles d'engagement normales. Contrecarrer les opérations qu'ils fomentaient et les faire sortir de leur tanière était une tâche d'une extraordinaire complexité. Juste après le 11 septembre, le président Bush avait eu quelques heureuses initiatives. Il s'était notamment efforcé de modérer de manière rapide et systématique le sentiment anti-islamique aux États-Unis. Ce qui n'était pas un mince exploit compte tenu de l'histoire de notre pays avec le maccartisme et les camps d'internement de Japonais au lendemain de Pearl Harbor, et avait mobilisé un soutien international pour la première campagne d'Afghanistan. Même des programmes controversés de l'administration Bush comme le Patriot Act, que j'avais moi-même critiqué, me semblaient des outils potentiels d'abus plus que de véritables violations des libertés civiques américaines. La manière dont l'administration Bush avait tiré parti du renseignement pour obtenir l'adhésion publique à l'invasion de l'Irak, sans parler de son usage du terrorisme comme levier aux élections de 2004, était plus problématique. Et bien entendu, je considérais l'invasion proprement dite comme une faute stratégique majeure, aussi grave que l'avait été l'embourbement au Vietnam quelques décennies plus tôt. Mais les guerres actuelles en Afghanistan et en Irak n'avaient pas donné lieu à des bombardements à l'aveugle, ni impliqué que des civils soient pris pour cible, comme cela avait été régulièrement le cas même lors de guerres justes comme la Seconde Guerre mondiale. Et, avec des exceptions manifestes comme Abu Ghraib, nos troupes sur le théâtre des opérations avaient fait preuve d'une discipline et d'un professionnalisme remarquables. À mes yeux, ma mission consistait donc à réparer les aspects de l'antiterrorisme qui avaient besoin d'être réparés, plutôt que de tout détruire de fond en comble pour tout reprendre de zéro. Une de ces mesures consistait à fermer Gitmo, la prison militaire de la baie de Guantanamo, et aussi faire cesser le flux continu de prisonniers qui y étaient placés en détention pour une période indéterminée. Autre mesure, mon décret-loi pour mettre fin au recours à la torture. Certes, on m'avait assuré au cours de mes briefings de transition que les transferts de prisonniers en dehors des procédures normales et les interrogatoires poussés avaient cessé durant le deuxième mandat du président Bush, mais le caractère fourbe, irrespectueux et parfois absurde de ces pratiques, telles que me les avaient décrites certains rescapés de haut rang du gouvernement précédent, un médecin était toujours présent pour s'assurer que le suspect ne souffrirait pas de dommages permanents ou ne risquait pas de mourir, m'avait convaincu de la nécessité de fixer des lignes claires et nettes. Au-delà de cette question, ma plus grande priorité était d'instaurer de solides systèmes de transparence, de responsabilisation et de surveillance, auxquels participeraient le Congrès et la justice, et qui fourniraient un cadre légal crédible pour ce qui, je le craignais, serait malheureusement une lutte sur le long terme. Pour cela, j'avais besoin d'un regard neuf et de l'esprit critique des avocats, réformistes pour la plupart, qui travaillaient au service juridique de la Maison-Blanche, de la CIA, du Pentagone et du Département d'État. Il me fallait également quelqu'un ayant opéré au cœur de l'antiterrorisme américain, quelqu'un pouvant m'aider à naviguer au milieu des divers compromis stratégiques qui ne manqueraient pas de se présenter, puis à plonger dans les entrailles du système pour faire en sorte que les changements nécessaires aient effectivement lieu. John Brennan était la personne indiquée. La petite cinquantaine, des cheveux gris clairsemés, une hanche défectueuse, conséquence de ses exploits en dunk à l'époque où il jouait au basket dans l'équipe du lycée, et un visage de boxeur irlandais, il s'était intéressé à l'arabe à la fac, avait étudié à l'université américaine du Caire et était entré à la CIA en 1980 après avoir répondu à une petite annonce du New York Times. Il passerait les 25 années suivantes à l'agence en tant que responsable du briefing quotidien du renseignement, chef du bureau au Moyen-Orient et enfin directeur adjoint sous le président Bush, chargé de monter l'unité antiterroriste de l'agence après le 11 septembre. Ma Malgré son CV et son allure de dur à cuire, ce qui m'avait le plus frappé chez Brennan, c'était son caractère réfléchi et son absence totale d'affectation, ainsi que sa voix d'une improbable douceur. S'il était inflexible dans sa volonté de détruire Al-Qaïda et autres organisations de cet acabit, il possédait une connaissance suffisante de la culture islamique et des complexités du Moyen-Orient pour savoir que les armes et les bombes à elles seules n'accompliraient pas cette tâche. Quand il m'avait dit qu'il s'était personnellement opposé au waterboarding et autres formes d'interrogatoires poussés autorisées par son patron, je l'avais cru. Et j'étais convaincu que la réputation dont il jouissait au sein de la communauté du renseignement me serait infiniment précieuse. Et pourtant, Brennan avait été à la CIA à l'époque où le waterboarding était pratiqué, si bien qu'il m'était impossible de le choisir comme directeur de l'agence dès mon entrée en fonction. Je lui ai donc proposé le poste de conseiller adjoint à la sécurité nationale chargé de la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme. « Votre mission, lui ai-je expliqué, consistera à m'aider à protéger ce pays d'une façon qui soit en adéquation avec nos valeurs et à vous assurer que tout le monde fera de même. Vous vous en sentez capable ?» Il a dit oui. Pendant les 4 années qui ont suivi, John Brennan a tenu promesse, nous appuyant pour faire les réformes nécessaires et me servant d'intermédiaire auprès des bureaucrates parfois sceptiques et réticents de la CIA. Il partageait aussi l'un de mes fardeaux, celui de savoir que la moindre erreur que nous commettrions pourrait coûter des vies humaines, ce qui expliquait qu'on l'apercevait souvent en train de travailler stoïquement dans un bureau sans fenêtre de l'aile ouest, sous le bureau ovale, pendant les week-ends et les vacances, éveillé pendant que d'autres dormaient, étudiant scrupuleusement la moindre bribe de renseignements avec une concentration inflexible et tenace qui, au sein de la Maison Blanche, lui valait le surnom de « la Sentinelle ». Il est apparu assez rapidement que tourner la page en renonçant aux anciennes pratiques de l'antiterrorisme pour en instituer de nouvelles quand cela était nécessaire serait un processus lent et pénible. Fermer Gitmo supposait de trouver les établissements pénitentiaires et les procédures juridiques adaptées aux détenus existants et aux terroristes que nous étions susceptibles d'arrêter. À la suite de saisines au titre de la loi sur la liberté de l'information, qui demandait la publication de documents de l'époque Bush et qui avait été validée par les tribunaux, je devais à présent décider lesquels d'entre eux pouvaient être rendus publics au sujet du waterboarding et du transfert extrajudiciaire de prisonniers. Oui, pour les documents juridiques justifiant de telles pratiques, car les programmes et les mémos proprement dits étaient déjà largement connus, non pour les photos des pratiques elles-mêmes, qui risquaient, selon le Pentagone et le Département d'État, d'attiser l'indignation au plan international et de faire courir un plus grand danger à nos troupes et à nos diplomates. Nos équipes juridiques et de la sécurité nationale ont bataillé au quotidien pour trouver les moyens de renforcer la surveillance judiciaire et parlementaire de nos actions antiterroristes et de faire face à nos obligations de transparence, sans pour autant tuyauter les terroristes lecteurs du New York Times. Plutôt que de continuer ainsi, nous fondant sur ce qui, aux yeux du monde entier, passait pour des décisions de politique étrangère erratiques, nous avons décidé de préparer 2 discours afin de présenter nos mesures antiterroristes. Le premier, s'adressant en priorité aux citoyens des États-Unis, insisterait sur le fait que la sécurité nationale à long terme du pays dépendrait de notre fidélité à la Constitution et à l'État de droit, en admettant que, juste après le 11 septembre, nous avions parfois failli à ces principes, et en exposant notre conception de l'antiterrorisme pour aller de l'avant. Le second discours, censé se tenir au Caire, aurait une visée internationale, s'adressant en particulier aux musulmans du monde entier. J'avais promis pendant ma campagne de prononcer un tel discours, et même si, avec tout ce qui se passait, certains dans mon équipe suggéraient que j'y renonce, j'ai dit à Ram qu'il était tout simplement hors de question de se dédire. On ne changera peut-être pas du jour au lendemain l'opinion publique dans ce pays, ai-je expliqué, mais si on n'aborde pas de front la question des tensions entre l'Occident et le monde musulman, si on ne décrit pas à quoi pourrait ressembler une coexistence pacifique, on continuera à se battre dans la région pendant encore 30 ans. Pour m'aider à écrire ces 2 discours, j'ai fait appel à l'immense talent de Ben Rhodes, 31 ans, rédacteur de mes discours au Conseil de sécurité nationale, qui serait bientôt conseiller adjoint à la sécurité nationale chargé de la communication stratégique. Si Brennan faisait office d'interface entre moi et l'appareil de sécurité nationale dont j'avais hérité, Ben, lui, me permettait de renouer avec mon moi plus jeune, plus idéaliste. Ben, qui avait grandi à Manhattan, élevé par une mère juive de gauche et un père avocat originaire du Texas, tous deux ayant été fonctionnaires sous Lyndon Johnson, avait été étudiant à New York University en master d'écriture de fiction, au moment où le 11 septembre avait eu lieu. Animé d'une colère patriotique, Ben s'était dirigé vers Washington à la recherche d'un moyen de se rendre utile. Il avait fini par décrocher un boulot auprès de Lee Hamilton, ancien élu de l'Indiana à la Chambre des représentants, et avait participé à la rédaction du rapport fort remarqué du groupe d'études sur l'Irak en 2006. De petite taille et prématurément dégarni, avec des sourcils sombres qui semblaient perpétuellement froncés, Ben avait été plongé directement dans le grand bain. Notre campagne, en manque d'effectifs, lui avait en effet immédiatement demandé de produire des notes de synthèse, des communiqués de presse et d'importants discours. Il y avait eu quelques déconvenues. À Berlin, par exemple, Favs et lui étaient tombés sur une superbe formule en allemand, une communauté de destin, pour relier les thèmes de mon unique grand discours préélectoral à l'étranger, avant de se rendre compte, 2 heures à peine avant que je monte sur scène, que la formule avait été utilisée par Hitler lors d'un de ses premiers discours au Reichstag. Peut-être pas tout à fait l'effet que vous recherchez, a fait remarquer Reggie Love, pince sans rire, alors que j'éclatais de rire et que le visage de Ben devenait cramoisi. Malgré son jeune âge, Ben n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait, quitte à contredire des conseillers ayant plus d'expérience, avec une intelligence acérée et une franchise opiniâtre, agrémentée d'autodérision et d'une bonne dose d'ironie. Nous avions une sensibilité d'auteur en commun, et cela a été le fondement d'une relation pas si différente de celle que j'entretenais avec Favs. Je pouvais passer 1 heure avec Ben, à lui dicter mes arguments sur un sujet, et être sûr de recevoir quelques jours plus tard un premier jet qui non seulement était parvenu à restituer ma voix, mais captait aussi quelque chose de plus essentiel, ma conception fondamentale du monde, et parfois même mon cœur. Ensemble, nous avons bouclé assez rapidement le discours sur l'antiterrorisme. Ben a toutefois constaté que la CIA et le Pentagone, à qui il envoyait sa copie pour recueillir leurs commentaires, biffaient systématiquement en rouge la moindre critique de pratique comme la torture, le moindre mot, la moindre proposition allant dans ce sens. Autant de réticences pénibles de la part de fonctionnaires arrivés pour la plupart à Washington avec l'administration Bush. Je recommandais à Ben d'ignorer la plupart de leurs suggestions. Le 21 mai, j'ai prononcé mon discours aux Archives nationales, me tenant debout près des exemplaires originaux de la Déclaration d'indépendance, de la Constitution et du Bill of Rights, au cas où quelqu'un au sein du gouvernement ou en dehors n'aurait pas compris le message. Le discours musulman, comme nous en sommes venus à appeler ma deuxième allocution importante, a été plus délicat. Au-delà des portraits négatifs de terroristes et de princes du pétrole véhiculés aux infos ou dans les films, la plupart des Américains savaient peu de choses de l'islam. D'autre part, des enquêtes montraient que les musulmans du monde entier croyaient que les États-Unis étaient hostiles à leur religion et que notre politique au Moyen-Orient n'avait pas pour objectif d'améliorer la vie des gens, mais plutôt d'assurer notre approvisionnement en pétrole, de tuer des terroristes et de protéger Israël. Au vu de cette très nette démarcation, j'ai indiqué à Ben que notre discours devait moins se concentrer sur les grandes lignes de notre nouvelle politique que sur une volonté marquée de favoriser une meilleure compréhension réciproque des deux camps. Cela impliquait d'admettre la contribution extraordinaire des civilisations islamiques dans les domaines des mathématiques, de la science et de l'art, et de reconnaître le rôle que le colonialisme avait joué dans certains conflits pérennes au Moyen-Orient. Il s'agissait aussi d'admettre l'indifférence des États-Unis vis-à-vis de la corruption et de la répression dans la région, et notre complicité dans le renversement du gouvernement élu démocratiquement en Iran pendant la guerre froide, ainsi que de reconnaître les humiliations cuisantes endurées par les Palestiniens vivant dans les territoires occupés. Entendre ces faits historiques indéniables énoncés par un président américain allait en désarçonner plus d'un, me suis-je dit, et peut-être leur ouvrir l'esprit sur d'autres vérités plus dures à avaler. Que le fondamentalisme islamique, qui en était venu à dominer une si grande partie du monde musulman, était incompatible avec l'esprit d'ouverture et de tolérance qui servait de carburant au progrès moderne. Que trop souvent, les dirigeants musulmans imputaient tous leurs maux à l'Occident pour éviter d'assumer leurs propres échecs. Que seule la négociation et le compromis permettraient d'aboutir à la création d'un État palestinien et non les incitations à la violence et l'antisémitisme. Et qu'aucune société ne pouvait réellement réussir en opprimant systématiquement les femmes.